Bonjour aux auditeurs de 100% Patients, le podcast au plus près des patients qui va vous entraîner au cœur de la réalité des patients. Apprendre avec eux comment surmonter l'épreuve de la maladie, c'est un moment intime que nous allons passer ensemble, un moment riche et porteur d'espoir. Pour notre premier épisode, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Agnès. Agnès, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté Agnès cette invitation pour le premier numéro de ce tout nouveau podcast que nous étrenons avec vous. En quelques mots, Agnès, vous avez 63 ans, vous avez mené une carrière flamboyante dans les plus hautes sphères juridiques à Paris. Mais c'était aussi une vie, comme vous le dites, sans oxygène, une vie à 100 à l'heure, le stress collé aux semelles. Il y a un mantra qui ne vous quittait jamais, toujours avancer, coûte que coûte. Et pourtant, un jour de juin 2016, le temps s'arrête. On vous diagnostique un cancer du sein de stade 2. C'est au moment où vous alliez fêter 60 ans à l'époque. Quel souvenir vous avez de ce moment-là en particulier, la première fois que vous entendez le mot cancer ?
Ce que j'ai ressenti, évidemment, quand on va fêter ses 60 ans, qu'il y a une croisière fluviale, la vie est un long fleuve tranquille, je pensais. La vie va s'arrêter d'un seul coup dans ce bureau qui faisait suite à une mammographie qui avait décelé quelque chose de scientifique, parce qu'il ne prononce pas le mot cancer. Ce qui était prononcé, c'est carcinome infiltrant stade 2. Ces mots sont emprunts dans mon corps. Je ne le comprenais pas, mais je savais que derrière, évidemment, on allait peut-être employer un mot que je n'aimais pas parce que maman était décédée du cancer alors que j'avais 10 ans, ce mot cancer qui était déjà dans ma vie. Et donc, me retrouvant dans ce bureau de cette dame médecin référent, mais qui manifestement n'était pas du tout préparée à l'oncologie. Je la plaignais parce qu'elle prononçait jamais le mot. Elle disait carcinome, infiltrant, stade 2. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Peut-être serait-ce un cancer ? Et pauvre dame qui essayait, elle ne savait plus ce qu'il fallait faire. L'empathie, je ne sais pas, elle n'était pas préparée du tout à faire face à cette dame. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée avec une lettre qu'elle a écrite. « Mon cher confrère, je vous confie cette patiente atteinte d'un carcinome. Voilà, et c'est ainsi que commence mon aventure. »
Donc, il se passe des tas de choses ce jour-là. Vous entendez des mots que vous ne comprenez pas. Et en même temps, vous avez le sentiment que la vie est peut-être en train de s'arrêter, c'est ça ?
Oui, je suis un peu atterrée. Pour moi, c'est un tsunami. Et sous ce choc, il faut que je comprenne, je suis toute seule, il faut que je comprenne et il faut que je choisisse un établissement, un institut de cancérologie.
Et si on revient à ce moment où vous apprenez la nouvelle, si vous vous souvenez de vos sensations physiques à ce moment-là, comment ça se passe ?
Alors physiquement, je suis sous le choc et c'est vrai que souvent cette image de tsunami, je suis glacée, j'ai pas la capacité de réfléchir et je me souviens de ce choix qui doit être fait que... Et surtout, je retombe dans l'enfance qui a été très difficile. L'enfance déjà marquée par le cancer.
Et on peut dire en quelque sorte que le cauchemar continue. Vous allez rencontrer l'oncologue d'un grand institut de cancérologie parisien.
Oui, je pensais, là je me disais, bon là je vais être avec un grand expert. Et je pensais qu'il allait me, entre guillemets, pardon, parce que j'étais tellement choquée, qu'il allait me rassurer. Et je me suis retrouvée accompagnée de mon époux, de ma fille, face à ce monsieur. Très brillant, très scientifique, et que j'ai dénommé dès le départ monsieur statistique, dans la mesure où le cancer, c'est d'abord une statistique, madame. Jamais il se tourne avec une certaine compréhension, on va dire. Jamais il ne sourit, et plus je le vois comme ça, plus je ressens mon époux et ma fille qui étaient à mes côtés se raidir sur leur chaise face à ce monsieur qui jamais se lève, jamais sourit, jamais. Les mots scientifiques passaient pas. Les statistiques ne passaient pas. J'avais cette femme qui allait être abîmée, esquintée. Et ce monsieur qui me disait, écoutez madame, je ne vois pas pourquoi la chimio, parce que vous savez, je vais vous donner une image. Alors, est-ce que vous montez dans un avion si vous savez que cet avion a 30% de risque de cracher ? Il me dit ça, hein, il assène ça avec une vérité, 30% de risque, crash d'avion, je suis terrorisée quand je prends l'avion. Alors je l'étais avant, je le suis encore plus, ce fameux crash d'avion m'est resté à vie. Et là, j'ai encore dans ma tête le schéma qu'il a fait, les tableaux d'effets secondaires, tout va très vite. En une heure, il se lève, le rendez-vous est terminé.
Et c'était fini. Pas d'humanité.
J'oserais pas dire parce que depuis, je me suis un peu aguerrie. Et par la suite, au sein de cet institut, j'ai eu tout le contraire. J'ai eu au cours de mon opération, on y reviendra, mais j'ai eu aussi au cours de la radiothérapie des personnes extraordinairement bienveillantes, que ce soit des radiothérapeutes ou des infirmières, des personnes qui, simplement par un sourire ou par une main tendue, peuvent faire passer quelque chose. Et qu'est-ce que j'attendais de cet oncologue ? C'est de dire, madame, nous allons essayer de vous guérir. Il faut savoir un petit peu quelques mots, parce que sinon on reste sur une image de crash d'avion. Et ce fameux crash d'avion, je me suis dit, mais peut-être qu'il n'est pas encore terminé.
Donc peut-être que vous n'avez pas eu de chance, parce que peut-être que d'autres patientes que vous avez rencontrées n'ont peut-être pas eu les mêmes expériences que vous.
Sans rentrer dans le détail de mon expérience précédente, et de l'expérience que je poursuis dans mes traitements, je pense qu'il y a encore, entre guillemets, avec beaucoup de respect, il y a encore beaucoup à faire. Le patient partenaire, c'est précisément indispensable pour de temps en temps rappeler cette petite lumière, cette petite voix, cette petite main qui leur coûte que quelques minutes, quelques secondes. Et moi, je crois beaucoup à une espèce de bienveillance, gentillesse toute simple et qui ne fait pas de mal à ces grands scientifiques que je respecte par ailleurs. Parce qu'il faut du courage, je vais vous dire. Quand on vous annonce que vous allez tout perdre, les seins, les cheveux et les nausées et les aftes et tout ce qu'il a annoncé, d'un seul, en une heure de temps, vous êtes asséné de tas de choses. On se demande, est-ce que je reste ? Je sors, je me lève, je pars, je fais quoi là ? Et grâce à mon mari, grâce à ma fille, et encore une fois, comme quoi il ne faut jamais y aller seul, j'ai pu résister. Et quand nous sommes sortis, j'ai demandé à mon mari et à ma fille s'ils avaient ressenti cela, parce qu'on pourrait penser que mon émotion était telle que je ressentais très mal cette annonce. Eux aussi étaient glacés, ils n'osaient même plus me parler, étaient dans la sidération de cette annonce.
Et cette sidération de l'annonce, vous m'avez parlé, Agnès, du syndrome du glissement. Quand vous arrivez à la maison au début et quand cette maladie s'installe entre vous, ça se passe comment ?
Oui, on est très fatigué, mais il faut quand même dire qu'on dit tout le temps dans le cancer, on n'est pas fatigué par la maladie, on est fatigué par l'émotion, par tout ce qu'il faut apprendre en quelques minutes, tout ce nouveau chemin, toute cette technicité, tout ça, ça fatigue énormément, énormément. Et je suis sortie, j'étais plombée. Et à la maison, je me suis dit, mais finalement, il vaudrait mieux que je parte parce que mon mari, ma fille, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont vivre ? Mes cheveux, mon corps, mon opère. Et là, j'ai pensé pendant un moment, oui, j'ai eu le syndrome du glissement et pendant 2 minutes, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que la femme que je suis, le warrior, là, que j'ai toujours été, quelque part, elle ne peut pas se bouger un peu ? J'avais très peur et je ne me bougeais pas et je sentais que je glissais. Voilà, donc c'était difficile.
Et vous avez glissé un petit peu au début ?
J'ai glissé un peu au début, oui, j'ai glissé.
Votre fille aussi, à un moment, elle était traumatisée et pour le coup, elle a pris des décisions importantes pour elle ?
Oui, Alexandrine, mon mari, l'ambiance à la maison, tout était plombé. On n'osait pas parler, la maison c'était la maison du cancer et je crois que le silence était meilleur que tout. Personne ne savait trop puisqu'en fait on n'avait pas entendu des mots auxquels on aurait pu d'ailleurs se raccrocher. J'ai toujours pensé, mais pourquoi il ne nous a pas dit « ça va être dur, mais vous allez y arriver ». Des mots qui auraient permis à la famille le soir de dire « mais t'as vu, il a dit, ça va être dur, mais on va y arriver ». On aurait pu échanger entre nous des mots positifs, mais on n'avait même pas de voix puisqu'on n'avait pas entendu tout ça.
Agnès, merci pour votre franchise, merci pour cette émotion très forte. Je pense que les auditeurs vont la ressentir. On va se retrouver bientôt la semaine prochaine pour la suite de notre podcast. On discutera ensemble du moment où vous êtes véritablement entré dans la maladie, c'est-à-dire le moment où vous avez été traité dans cet institut parisien où vous avez été soigné. Merci Agnès.